Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous Thierry Dagiral et les grandes voix on décortique l'actu ce vendredi avec Michel Cotta et Bruno Dive, éditorialistes au quotidien Sud-Ouest, et vous pouvez aussi réagir au 39-21.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là ce soir. C'est le chiffre du jour, moins 13,8%, c'est le plongeon historique du produit intérieur brut de la France annoncé par l'INSEE. Face à cela, il faut être unis. C'est ce que dit en tout cas Jean Castex.
Nous sommes face à une crise sanitaire qui dure, à une crise économique qui est là, et l'unité des forces politiques, économiques et sociales de la nation est indispensable pour faire face à ce qui est devant nous.
Michel Cotta, l'unité contre la récession, c'est la seule issue. Ouais.
Oui, non, mais on voit très bien, effectivement, tous les premiers ministres à la place de Castex dirait la même chose.
Ouais.
Unité, tout le monde clame ça, malheureusement, marqué en vacances peut-être, les hommes politiques étant...
Ils sont pas vraiment en vacances, hein. Je crois qu'ils
d'accord,
sont...
bon, peut-être qu'ils mettront un frein,
Ouais.
Alors, mais malheureusement, l'unité est la chose en France la plus difficile à faire, on le sait, à gauche et à droite.
Ouais. Bruno Dive.
Et au milieu.
Les dépenses des ménages ont baissé de 11%, seul alimentaire résiste, les transports, l'hébergement, le tourisme, effondrement total, moins 57%. Bon, la rentrée va être difficile.
À la rentrée, oui, il va être difficile. Ce chiffre n'est malheureusement pas surprenant. Il fallait s'y attendre puisque l'économie s'est effondrée. Alors, il faut nuancer, il y a quand même une petite source d'espoir, c'est
oui.
que c'est le deuxième trimestre, donc c'est surtout le mois d'avril hein, qui
exactement.
Explique cet effondrement.
Tout à fait.
Il y a une petite reprise à la sortie du confinement au mois de mai et un peu moins au mois de juin. Donc, ce qui peut laisser un petit peu d'espoir à la rentrée, on ne sait jamais, est-ce que les gens vont se remettre à consommer ? C'est malheureusement peu probable.
C'est tout l'enjeu.
Parce que dans ce contexte social... qui est terrible. Mmh. On voit déjà bien les plans sociaux qui s'amoncellent. Mmh. Donc avec la crainte du chômage, des licenciements, eh bien, la tentation des Français va être encore plus forte que ce qu'elle est d'habitude, c'est-à-dire d'épargner
ouais.
Plutôt que de consommer.
On le disait dans le journal de 18h, hein, 75 milliards d'euros épargnés par les Français. Bien sûr, la peur du lendemain. Michel, il faut dépenser maintenant, il faut consommer à nouveau.
C'est difficile parce qu'on a eu tous le même réflexe. Hein. C'est un réflexe collectif.
Bien sûr.
En sortant du confinement, on a acheté tout ce qu'on n'avait pas acheté pendant 2 mois. Et puis, en juin-juillet, on s'est dit, attendons, on n'a peut-être pas besoin de ce chemisier-là ou de ce maillot de bain-là. Mmh. Attendons. Et au fond, les Français, d'une façon générale, ont adopté la même attitude. Alors, bien sûr, oui, il faudrait consommer davantage, mais c'est un drôle de cycle. Les gens d'abord pensent à épargner.
Bien sûr.
On leur dit qu'il faut consommer
bien
pour
sûr.
Que l'économie aille mieux. Et si, au contraire, on retient des sommes d'argent, au contraire, l'économie va moins bien.
Sûr.
Mais c'est un raisonnement particulier. Je ne suis pas sûr que
tout
le monde y participe.
Et puis, il y a cette épée de Damoclès, c'est qu'il y a une deuxième vague aussi, éventuellement possible, etc. Enfin, voilà.
Franchement, on le sent dès maintenant. Peut-être pas une deuxième vague, mais on sent que là, il suffit de traverser la rédaction d'Europe 1 hein, pour voir qu'on a tous des masques, alors que même à la fin du confinement, on l'enlevait de temps en temps. Ben, malheureusement, il faut continuer à le mettre.
On va écouter... Oui, Bruno, allez-y.
Non, juste pour dire... La deuxième vague, peut-être qu'elle aura lieu, mais ça ne sera pas la même chose
qu'au
printemps. Ce qu'on paye aujourd'hui en matière économique, ce n'est pas directement le virus, c'est le confinement.
Mmh.
On peut penser, on en a déjà parlé, que le confinement ne va pas revenir. C'est pas, le fait qu'on puisse porter des masques va justement nous permettre peut-être d'aller consommer dans les magasins un peu plus. Mais évidemment, ce n'est pas très incitatif.
39-21, la parole aux auditeurs. Bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Vous nous appelez Kevin de Nantes.
Oui, alors là, exactement de Saint-Malo, quasiment les pieds dans l'eau, je vous appelle de la plage.
Mais écoutez, honte à vous. on vous écoute, Kevin.
Oui, alors moi, ce qui m'agace un petit peu, notamment dans les propos de Bruno Le Maire, cette incitation à la consommation, c'est qu'on nous a promis un monde d'après, un monde différent. Et là, on voit que finalement, on essaye de reconstruire un monde où la consommation est la seule base, finalement, de la croissance. Ouais. Il y a eu des propositions, notamment de la Convention citoyenne, d'utiliser justement l'épargne des Français, qui en effet est énorme et c'est encore grossi pendant le confinement, pour l'orienter vers de l'économie verte, vers des investissements verts. C'est peut-être par là qu'il faut aller pour exploiter cette épargne-là pour des investissements, au lieu de pousser les gens à acheter le dernier smartphone à la mode, qui, en termes d'économie française, ne va pas forcément être très valorisante. Donc voilà, il y a peut-être des réflexions à avoir pour construire finalement une économie et un fonctionnement plus résilient, une économie où voilà, quand on s'arrête pendant 2 mois de consommer, ça ne met pas l'économie à terre, tout simplement.
Merci à vous, Kevin. Bruno Di, vous répondez, ça va être tout l'enjeu de la rentrée, bien évidemment, Bruno. Hein.
Oui, en effet, monsieur a raison. Je pense que le fait d'être les pieds dans l'eau lui donne une grande lucidité, mais... En fait, une croissance écologique, c'est une manière de relancer la croissance, la transition écologique. Oui. Mais on voit bien que c'est pas suffisant.
C'est ça.
Alors, en effet, aujourd'hui, les gens n'achètent que ce qui leur est strictement nécessaire, c'est-à-dire les postes alimentaires. Mais c'est pas parce que on va s'arrêter de consommer. Alors, il y a certainement du superflu, mais qu'on va se restreindre et qu'on va épargner. Le climat va mieux s'emporter. Je ne crois pas qu'on puisse faire un automatisme. Et dans les propositions de la Convention citoyenne dont a parlé monsieur, il n'y a rien qui interdit la consommation.
Michel Cotin.
En revanche, effectivement, que la relance soit prévue par tout ce qui est vert, elle est prévue. Hein, il y a un budget qui est alloué, qui est trouvé. Maintenant, l'un ne remplace pas l'autre. Vous voyez, Kevin, ce n'est pas parce qu'on va construire une éolienne près de chez vous que vous n'allez pas consommer telle chose. Quoi. Les deux ne sont pas antinomiques.
Certaines incitations, certaines recommandations de la Convention citoyenne, je pense par exemple à la rénovation thermique,
des bâtiments
et des logements. Oui. C'est quelque chose qui coûte cher. Alors c'est de la consommation, ça peut
c'est
relancer,
ça.
mais il faut avoir les moyens.
Fasse, ouais.
Donc, là on voit bien qu'on bute sur quelque chose, sur un problème de pouvoir d'achat chez de nombreux ménages.
Alors, il y aura peut-être des incitations.
Nous sommes en récession et ça va sans doute continuer. On continue à en parler sur Europe 1 dans un instant. À tout de suite.
18h39 sur Europe 1, le débat des grandes voix continue dans votre grand journal du soir. À vos côtés, Thierry Dagiral, Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, et Michel Cotin.
Voilà, nous sommes dans récession, donc depuis ce matin, moins 13,8%, chiffre plongeon historique du produit intérieur brut de la France. Et Michel Cotin, ça peut encore s'aggraver, on est encore aidé par le chômage partiel, on a encore des bouées, on n'est finalement qu'à l'aube de cette crise économique dont on ne sait pas ce que ça va donner.
Oui, effectivement.
Et jusqu'où elle peut aller.
Enfin, les mesures pour le chômage sont quand même prolongées, alors que au début, on n'imaginait pas. Il faudrait effectivement une incitation à la consommation, pour Kevin qui vient de
notre
nous
auditeur qui nous a appelé.
Beaucoup de gens pensent à une baisse de la TVA, mais comment c'est possible, une baisse de la TVA alors qu'on n'augmente pas les impôts. Il y a la revalorisation des 100 euros là, pour la rentrée scolaire, mais manifestement, ça ne suffira pas. C'est vrai, on est au début d'une crise qu'on ne maîtrise pas, au fond. On n'a pas tellement maîtrisé la crise du coronavirus. Et peut-être
on
n'a pas tout en main pour mesurer la crise ou la reprise. Parce qu'il y a quand même... beaucoup d'économistes envisagent qu'il y ait un redécollage, sinon
c'est
un
ça.
Redécollage...
Vu que la baisse a été forte, on peut très bien avoir une reprise.
Comme en Chine.
Exactement. Bruno Divin.
Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel sur la TVA, parce que les Allemands le font, hein, ils ont baissé les taux de TVA. Ils ont eu un plan de relance qui a été adopté il y a peu de temps, et où il y a des baisses de taux de TVA pour relancer la consommation. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si ce plan de relance, qui est annoncé pour la fin du mois d'août, n'intervient pas un peu tard. Enfin, est-ce qu'il fallait attendre tout l'été? Alors, on peut se féliciter qu'ils aient pris le gouvernement ait pris le temps de la réflexion, on sait qu'il y a eu le remaniement, mais le ministre de l'économie est toujours le même. Donc peut-être qu'on aurait peut-être pu aller un peu plus vite. Et sinon, pour répondre à votre question, la crise va être durable. Je crois que les experts économiques estiment que dans le meilleur des cas, on retrouvera le PIB qu'on avait en 2019, l'année dernière, on ne le retrouvera qu'à la fin 2021. Donc ça va être dans le meilleur des cas.
Je pense par exemple aux PME, aux TPE. Est-ce qu'il ne faudrait pas un système de chômage partiel longue durée? Parce que là aussi, ces effets, ils vont être très palpable pour ces petites entreprises.
Oui, alors
pour les artisans, etc.
En ce moment, on voit beaucoup les difficultés des grands groupes.
Exactement.
Airbus, et puis les groupes publics.
Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément suffisant, mais, d'ailleurs.
Et des grandes sociétés. Et effectivement, il y a tous ces entreprises
qui sont
anonymes, qui sont souvent d'ailleurs des sous-traitants de ces grandes entreprises.
Exactement.
Et qui souffrent également.
Et qui sont l'essentiel de l'économie française, Michel Cotard.
Oui, Cotard. Ça peut être inégal, d'ailleurs. Exact. Il y a des entreprises qui, peut-être, profiteront d'une certaine façon de la crise. Je voyais tout à l'heure Orange, donc, qui a manifesté une bonne santé pendant toute cette période et qui, au contraire, a gagné. Ce n'est pas une petite et moyenne entreprise, on est d'accord, mais même dans les petites et moyennes entreprises, il y en a qui vont sans doute marcher. Les restaurants, par exemple, ou quand même les gens, ou les cafés, etc. Et d'autres qui vont sentir vraiment le vent du boulet. C'est inégal et donc ça donnera des réactions inégales et en tout cas que je ne connais pas du côté de. Enfin, qu'on ne peut pas savoir.
Bien sûr.
Du côté
sûr.
Des Français.
Mais quand Emmanuel Macron ou Jean Castex parlent de relocalisation de nos industries, c'est beau sur le papier, c'est jouable dans les faits, Bruno Dive ?
Vu
le contexte,
c'est plus facile à dire
qu'à faire.
C'est en effet souhaitable parce qu'on a regardé ce qui se passe pour l'industrie des masques, du médicament. Ça va être un test. On a beaucoup parlé des médicaments qui sont produits, je crois, à 80% de notre consommation en Chine. Est-ce qu'on va arriver à le faire ? On voit bien déjà que Sanofi avait les tentations de réserver ses vaccins la priorité aux Américains. Donc tout ça est très difficile. La solution peut passer en effet par l'incitation aux PME, des grosses. Ce qu'il faudrait faire, c'est comme en Allemagne, encore une fois.
Si les Français étaient des Allemands,
c'est
ça serait.
Mais le système santé allemand, vous savez, on a les mêmes pourcentages de dépenses de santé qu'en Allemagne et on a vu que ça fonctionnait mieux là-bas, donc c'est mieux organisé. Et puis il y a ce tissu de grosses PME, comme on dit, qui fonctionne assez bien.
C'est bien ça qui est toujours d'ailleurs le talon d'Achille des Français, c'est la taille des entreprises. Alors, c'est très difficile quand on parle de ça, parce que ça met en cause des gens qui, justement, ne veulent pas se fondre dans une plus grande entreprise. Mais c'est la faiblesse, la faiblesse de fondement quoi, de la France, par rapport à l'Allemagne en tout cas.
18h44, je vous propose de regarder maintenant vers nos amis des États-Unis. Les États-Unis aussi qui sont en récession, le PIB américain a reculé de 32,9%. Et c'est dans ce moment particulier que Donald Trump, par un de ses fameux tweets, a mis le feu aux poudres en évoquant un report de la présidentielle prévue en novembre prochain. Coup de com', Michel Cotard.
Ça, alors franchement, je ne sais pas si c'est un coup de com', c'est un coup de non-com' peut-être.
Coup de non-com'.
Parce que d'abord, il l'annonce.
Officiellement, il dit qu'il a peur de fraude et de vote par correspondance à cause du Covid. Voilà.
Et en disant que donc ça faussera absolument le résultat. Enfin, l'astuce est un peu grosse quand même. Il le dit au moment où le PIB du pays est au plus bas, au moment où sa cote est au plus bas, au moment où celle de Joe Biden est la plus élevée. C'est un peu, je trouve qu'il y a une façon de dire « Ah ben non, ça me plaît pas,
on change la règle du jeu parce que… »
Vraiment, de toute façon, il ne peut pas le faire, apparemment. Le Sénat et le Congrès étant d'une avis d'une majorité différente. Et il a besoin, de temps en temps, il a besoin qu'on lui rappelle ça. Il a besoin des assemblées.
Bruno Dive.
Oui, moi je dirais plutôt coup de panique. Parce
coup de panique,
on voit bien que c'est un sentiment de panique.
Chute totale dans les sondages, y compris dans les États où il était.
Il est quand même, voilà, c'est ça. Il y a pas, parce qu'il y a les sondages, on sait ce qu'ils sont, mais il y a aussi les États clés.
Exactement.
Et puis certains électorats.
Notamment clés, les personnes âgées touchées par le Covid, notamment les femmes,
les femmes
dans les quartiers populaires, etc.
Et là, il est en train de perdre beaucoup de terrain, donc il commence à paniquer. Comme par hasard, son tweet est intervenu quelques minutes après l'annonce que vous avez rappelée de la chute spectaculaire. Mais les États-Unis font toujours tout en grand de 33% du PIB. On sait qu'il misait pour sa réélection. Il mise toujours, je pense, sur la bonne santé économique du pays, sur ses résultats économiques. Donc là, il ne pourra même pas faire valoir cela parce qu'en 3 mois, on ne voit pas comment les choses peuvent s'arranger. Donc il panique. Et ce qui est à craindre, donc, en effet, il ne pourra pas le faire. Le Congrès, il faudrait un accord du Congrès. Il ne l'aura pas, puisque même les Républicains, aucun Républicain ne le suit, ni à la Chambre des représentants, ni au Sénat. Mais ce qu'on peut craindre, c'est cette tentation de pourrir la campagne, puis l'élection, et peut-être même de contester le résultat de l'élection
c'est
si ça ne lui convient
pas. On pourrait aller jusqu'à, jusqu'à ça.
Avec lui, il faut s'attendre à tout. Et là, on rentre vraiment dans un climat extrêmement délétère.
Il faut dire que l'aventure de Trump restera dans les annales de l'Amérique, quelque chose de, on ne l'a pas vu arriver, disons les choses comme elles sont. Lui non plus. On s'est dit pendant 2 ans, jamais personne ne se débarrassera de lui, jamais, il est là pour 8 ans. Et puis là, effectivement, le Covid, comme quoi la
politique... Ce qui est fou, c'est ça, c'est que les chiffres étaient bons quand même. Le bilan de Trump était excellent avant, en termes économiques.
En tout cas, vu de son électorat.
Juste avant. Voilà.
Parce que l'emploi repartait. Parle de la diplomatie, de la place des États-Unis dans le monde, c'est catastrophique.
D'un point de vue économique, voilà.
Bah oui. Les résultats économiques étaient plutôt favorables. Et puis voilà, il y a la gestion que Michel a rappelée, la gestion de la crise sanitaire. Ouais. La gestion, enfin, l'affaire... du racial, des émeutes qui ont eu lieu, et on a vu qu'au lieu d'essayer de raccommoder, de rassembler le pays comme ce qu'ont fait tous les présidents, il a plutôt jeté de l'huile sur le feu. Il vient d'ailleurs de subir encore un autre désaveu à Portland, puisqu'il doit retirer la police fédérale qu'il avait envoyée pour réprimer les manifestations. Donc, en ce moment, c'est une série de déboires pour Donald Trump.
Panique à la Maison-Blanche. On continue à en parler dans un instant, juste après ça. À tout de suite.
Europe 1, 18h49, la suite du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral. Vous êtes avec Michel Cotta et Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest. Vous pouvez aussi réagir au 39-21.
Exactement, et on parle de ce qui se passe aux États-Unis, récession PIB américain qui a reculé de 32,9%. Ce vent de panique qui touche Donald Trump, le Covid, il faut le rappeler, a fait plus de 150 000 morts, la Floride est touchée de plein fouet, c'est la gestion de Donald Trump qui est visé, Michel Cotta.
Oui, plus que le nombre des morts, parce que quand on donne le nombre des morts aux États-Unis, évidemment, il y en a beaucoup, mais enfin, proportionnellement, il y en a finalement moins qu'en Espagne. C'est comparable à la France. C'est pas tellement ça, c'est la façon dont il a défié le virus.
C'est ça.
D'une manière virile,
bien
imbécile.
Sûr, bien sûr.
Voilà, il faut bien dire pardon. Hein. C'était absurde.
C'est ça.
Comme si le virus était un ennemi politique qu'il fallait terrasser, et moi je ne mets pas mon masque et je suis plus fort que vous. C'est au fond ce personnage-là qui est apparu,
qui est rejeté
aujourd'hui. Y compris dans son électorat, parce que son électorat était d'accord avec sa politique économique et même avec le personnage quand il envoyait toute la presse bouler. Mais là, vis-à-vis du Covid, alors qu'eux-mêmes étaient touchés, alors que son électorat est touché, c'est vrai que. Ça, à la fois sa gestuelle et ses arguments ont atteint quand même le vide absolu, quoi, le néant.
39-21, shérif nous contacte depuis les Charentes-Maritimes. Bonsoir, shérif.
Oui, bonsoir. Bonsoir, madame Cotta, et bonsoir tout le monde.
On vous écoute.
Oui, alors je ne vais pas faire du mauvais humour, hein, mais je me dis qu'effectivement, alors moi je viens d'Afrique, hein, je viens de la Guinée, et où notre chef d'État a changé la constitution pour essayer de se représenter pour un mandat, et je me dis que pour quelqu'un qui avait été, quand il était étudiant, un bon lecteur, un amateur de choses comme on appelle de Tocqueville avec démocratie en Amérique et tout ça, je me dis, mais est-ce que Trump n'est pas en train de me désespérer moi en faisant comme en Afrique, en essayant de changer les règles, voilà. Alors ça, c'était juste de l'humour, mais sinon plus sérieusement, je me dis que est-ce que les parlementaires démocrates et républicains devant le risque vraiment de perdre un peu trop avec lui et qu'il les entraîne dans son abîme à lui, est-ce qu'ils vont quand même pas essayer de forcer la main pour essayer de déplacer les élections?
Bruno Di vous répond. Merci, shérif, pour votre question.
Oui, monsieur a raison. Si Trump avait les mains libres, et heureusement, les institutions américaines sont solides et quand même encadrent quand même les pouvoirs du président, il aurait vite fait de transformer les États-Unis, en tout cas au bout de 2-3 mandats, peut-être, en République bananière. Donc ça pourrait dégénérer assez vite. Mais ce qu'il faut rappeler, je crois, pour la date des élections, c'est que jamais la date de l'élection présidentielle américaine En tout cas, depuis la guerre de sécession, et c'est même ça. Pour la guerre de sécession, même pour l'entrée en guerre, même pendant la Seconde Guerre mondiale.
Exactement.
En 1944,
les scrutins ont eu lieu.
Après le débarquement, ouais. L'élection ouais. a eu lieu à la date prévue. Et donc, on sait très bien que les arguties de Donald Trump sont des arguties, justement, l'histoire du vote par correspondance sur laquelle ils se font.
Mais ça va quand même troubler le scrutin aussi,
bien
ce
sûr,
vote
parce
par
qu'il y a des gens qui vont le croire. Non, mais il y a des États qui
ça
pratiquent...
Ça risque pas de poser la question de la légitimité ensuite.
Il y a des États qui pratiquent le vote par correspondance, mmh. et de ce que je lis, jamais personne ouais. N'a mis en cause, il n'y a jamais eu de fraude avérée ouais. suite au vote ouais. par correspondance. Alors Michel. Là, il sera sans doute plus massif, ouais. mais je ne crois pas que ça perturbera plus le scrutin que l'aide de M. Ouais. Poutine a pu la perturber en 2016.
Michel Cotin.
Voyant quoi, évidemment, il pourra toujours user cet instrument-là. Mais moi, ce qui me frappe le plus dans ce qui s'est passé, quand même, c'est après ce tweet, c'est la prudence des Républicains.
C'est ça.
Là, les Républicains oui. eux-mêmes, il n'y a pas eu de fort soutien ouais. Ouais. disant « oui, tiens, quelle bonne idée mmh. ». Pour le coup, alors ça peut peut-être changer, mais la première réaction... des Républicains, des démocrates, on peut la connaître, mais des Républicains est tout à fait parlante.
Oui, c'est vrai.
Même
c'est
extrêmement négative. Le chef de la majorité républicaine au Sénat...
Allons un peu plus loin. Est-ce qu'il pourrait, Donald Trump, refuser de quitter ses fonctions s'il prétend avoir perdu à cause d'un vote frauduleux? Est-ce qu'on peut envisager un truc comme ça, assez fou, parce que le personnage quand même est assez...
On peut envisager qu'il refuse, dans le cas d'une défaite, qui est donc
de reconnaître,
tout à fait possible, on peut qu'il refuse de reconnaître sa défaite, que ça prenne du temps. Alors tout dépendra aussi de l'ampleur de la victoire, enfin de l'écart entre les deux candidats. On peut envisager qu'il demande à recompter justement les votes par correspondance. Il a déjà commencé à préparer le terrain en disant le vote par correspondance, ça va prendre des semaines, des mois, j'ai pas envie d'attendre pour savoir. Et donc on voit qu'il essaie de préparer des arguments
ça,
pour jouer
c'est
là-dessus.
Ça, c'est ce qui se passe, Michel.
Tout est possible, évidemment, venant de lui. Mais quand même, le système politique américain est quand même démocratique. Je crois qu'on ne le défie pas aussi facilement, même si effectivement il a été élu, mais je vous rappelle, par une minorité des Américains. Moi, je le vois tout à fait contestant, mais je crois que le système politique est assez fort, et le système économique aussi d'ailleurs, parce qu'il peut repartir très vite, comme il était reparti après la crise de 2008. Mais enfin, quand le président de la République remette en cause, on peut recompter les voix, c'est sûr. Au-delà, ça me semble quand même très difficile.
Il faut rappeler que les deux administrations ont quelques mois, donc le mois de novembre élection et entrée
en janvier
en fonction. Donc il y a quelques mois à travailler ensemble. On peut imaginer ces deux administrations travailler ensemble. Ça peut être compliqué, Bruno Dive.
Oui, c'est vrai que ça peut être aussi... ça risque de pourrir énormément le climat. Mais cela dit, ils travaillent ensemble de manière... Déjà, les démocrates et les républicains travaillent ensemble à la Chambre des représentants, au Sénat, au Congrès, parce qu'ils ont chacun une majorité dans une chambre. Donc, ils ont l'habitude. Je pense que... On ne sait pas du tout comment Donald Trump peut réagir, en fait. C'est ça, la vérité. Ce qui est bien, en tout cas, c'est cette phase de transition entre l'élection et l'installation. Et je trouve qu'en France, on devrait s'en inspirer, d'ailleurs.
Michel Cotin, pour conclure.
Ce sera sûrement plus facile. La collaboration des deux administrations différentes sera plus facile que la communication de Trump et de Biden, si jamais Biden est élu.
Merci à vous deux. Merci beaucoup d'être venus ce soir sur Europe 1. Bon week-end à vous. Merci.
Merci.